Mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais mon présentation, l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Hello la compagnie et bienvenue dans Mercredi pour la seconde partie spéciale dinosaures. La semaine dernière, souviens-toi, nous étions au Musée des sciences de Laval avec Guillaume Seguin, médiateur scientifique. Je voulais juste vous préciser que ce musée a changé de nom. Il s'appelle dorénavant Zoom, Z-O-O-M. D'ailleurs, Guillaume m'a dit que l'expo du moment s'appelle Explore Mars. C'est un super programme pour découvrir la belle planète rouge et les technologies qui ont été envoyées pour explorer son sol. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas dans l'espace, mais dans le passé, en fouillant la Terre de notre planète. Guillaume interviendra pour continuer à nous expliquer ce que sont des fouilles archéologiques. Nous retrouverons aussi Salima qui présentera deux livres sur les dinosaures qui lui ont permis de faire spécialement une sélection de quelques spécimens incroyables. Mais tout de suite, retrouvons Joden qui va vous faire revivre une période de l'ère des dinosaures, il y a 150 millions d'années. Elle évoquera le Miocène à un moment donné. Donc, je voulais juste vous expliquer en deux mots ce que c'est. Quand on fait des fouilles dans la Terre, on s'aperçoit qu'il y a plein de couches différentes, un peu comme des étages de lasagne. Dans l'étage sous la Terre qui s'appelle Miocène, on sait que les découvertes des fossiles, coquillages, végétation appartiennent à une période qui est située entre 23 millions d'années et 5 millions d'années avant aujourd'hui. C'est ça l'étage du Miocène. C'est incroyable car plus on creuse dans le sol en faisant des fouilles, plus on remonte dans le temps finalement. Allez, c'est parti pour une giga bataille de ces géants lézards.
Il y a des groupes de spécialistes qui utilisent les mêmes techniques que les policiers utilisent sur des scènes de crime. Où là, on voit qu'il y a plein d'ordinateurs avec des scanners, avec des sonars, avec des lumières. On sait que c'est tout de suite très sérieux et très intelligent. Ce qui est super, c'est que ces gens-là, ils veulent bien prêter leur matériel pour les chercheurs en paléontologie, en préhistoire et donc pour les dinosaures. Donc, ce qui est super, c'est que grâce à toutes leurs recherches, on arrive à reconstituer les batailles. Parce que quand même, vu comment ils étaient balèzes, les dinosaures, et qu'ils avaient des sacrées armes sur eux, entre leurs carcasses, leurs griffes et leurs dents, c'est quand même le plus intéressant, les bagarres, quoi. Donc moi, j'ai envie de vous raconter une des batailles les plus incroyable de toutes les batailles de la préhistoire. Enfin, on n'en connaît qu'une partie, mais déjà cette partie-là, ça va vous donner de l'eau à la bouche, voire même du sang à la bouche. Alors attention, hein, faut pas avoir trop peur, parce que là, ça va être complètement dégoûtant ce que je vais vous raconter. Alors, c'est une des plus grandes batailles de la préhistoire, comme je disais. Elle a eu lieu aux États-Unis, en fait, en Amérique du Nord, dans l'État qui s'appelle maintenant l'Utah. C'est un peu en plein milieu, et c'est là où sont tournés les films des Indiens avec les westerns, enfin, des Indiens qui courent avec les diligences et tout, et bam, 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 bam. Voilà, c'est hyper sec, c'est hyper montagneux, c'est assez orange, quoi. Et ben, à l'époque, donc c'est-à-dire il y a quand même 150 millions d'années, on est au Jurassique supérieur, faut vous remettre un peu dans le contexte, hein, parce que les dinosaures, ils jouaient pas aux Indiens. Et c'était pas du tout comme ça. C'était pas aussi sec, ça commençait la sécheresse, mais il y avait un grand point d'eau. Et qui dit grand lac, grand point d'eau, dit les animaux qui viennent y boire tout autour. Qui c'est qui a découvert cette bataille? À l'origine, c'est un berger, là, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans à peu près. Il se baladait avec ses moutons, enfin, il bossait quand même, hein. Et là, paf, il y a un des moutons qui marche sur un os de dinosaure, enfin, un os trop énorme et trop bizarre. Donc, le berger, il est allé chercher des archéologues, et là, ils ont fouillé, et ils ont trouvé 15 000 os. 15 000 ossements de dinosaures écrabouillés partout en 1000 morceaux. Et on imagine qu'il y en a tout autant en dessous. Donc là, grâce aux ossements qui étaient tout cassés, brisés en 1000 morceaux, ils les ont recollés un petit peu les uns avec les autres. Et ça a fait que maintenant, on arrive à savoir qui s'est fait complètement défoncer dans cette bataille. Alors, revenons-en à nos moutons. Enfin non, à nos dinosaures en fait. Donc c'était il y a 150 millions d'années, autour du lac de Price. Donc là, il faut vous dire qu'à cette époque-là, il commençait à faire sacrément chaud là. On avait bien soif quoi. Quand on se baladait par là, oh là là, s'il y avait de l'eau, fou, on y allait coûte que coûte. Le problème, c'est que, en fait, autour du lac, c'était un peu comme un marécage, quoi. On pouvait s'embourber facilement, quoi. C'était pas de la terre ferme, quoi. Mais se balader par là, de stégosaures. On les appelle des lézards à toi. C'est un peu les gros dinosaures emblématiques de la période du Jurassique supérieur, parce qu'ils sont assez rigolos. C'est des gros dinosaures, bien sûr. Ils ont le dos arrondi. Ils sont courts sur pattes. Ils ont des grosses pattes, comme ça, pour tenir bien au sol. Mais bon, ce qui fait qu'ils sont incapables de courir, hein, clairement. Ils font 3 tonnes. Voilà, un bon poids raisonnable pour les dinosaures de cette époque. Ils sont herbivores. Alors là, c'est un peu la loose, quoi, parce que... Enfin voilà, vous le savez quand même, à cette époque-là, c'est soit t'es herbivore, soit t'es carnivore, quoi. T'avais pas trop le choix. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de centriste ni de vegan, quoi. C'était soit tu te fais manger, soit tu manges de l'herbe, soit tu survis, soit tu te fais manger.
Ça, c'est l'esprit herbivore.
Et puis, il a soif, donc il est carrément mal barré. Donc là, il va voir s'il peut aller boire dans ce lac. Le truc, c'est qu'il y avait... une stégosaure, en fait. C'était une maman avec son bébé. Ce que je vous ai pas dit, c'est que... pourquoi on l'appelle le lézard à toi ? Le stégosaure, c'est un dinosaure à dos arrondi, court sur pattes, il a une queue avec des pointes, mais en fait, ce qu'il fait que vous allez tout de suite visualiser qui c'est lui qui a 17 plaques osseuses qui s'alignent sur son dos, formant une double rangée de plaques, vous voyez ? Donc en fait, ça fait qu'il est... ses pointes sur son dos, ça fait vraiment une belle courbe, en fait, et ça fait des grosses pointes qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de haut, quand même. Vous voyez un peu quel dinosaure c'est ? Ces plaques, elles lui permettaient de faire... elles avaient 3 rôles. La première, c'est la défense. Parce que quand tu vois un dinosaure avec des énormes pointes sur le dos comme ça, c'est pas facile à manger quand même. Hein. Et donc, le stégosaure, il a une sacrée bonne défense. En plus, au bout de sa queue, il a des pointes. Alors là, laisse tomber. Si jamais il balance sa queue de gauche à droite et que tu te prends un coup de queue de stégosaure, ça fait mal. Hein. Alors... donc la défense, ça peut être la première raison de ces pointes. Ça, la deuxième raison pourquoi il a ces pointes-là, c'est pour la régulation thermique. Alors là, je saurais pas vraiment expliquer. Les chercheurs disent que ça permet de, quand il a chaud, ça le refroidit, et quand il a froid, ça le réchauffe. Un peu comme nous, quand on court, du coup on a chaud, et ben du coup on transpire, ça nous refroidit, et quand on a froid, on a des poils qui nous réchauffent. Bon, moi j'y crois pas trop. Hein. Mais par contre, la troisième raison pourquoi il aurait ces plaques sur son dos, c'est pour la séduction. C'est pour faire le beau, ou la belle, bien sûr. C'est pour une parure de séduction, pour séduire la femelle ou le mâle à la saison des amours. Et ça, moi j'y crois carrément, parce que imaginez, je vois trop le stégosaure arriver là, avec ses belles plaques, t'as vu comme elle est grande ma plaque, et ben voilà. Donc, le pauvre stégosaure, la pauvre maman stégosaure avec son petit, ils sont allés boire, mais le problème c'est que ils sont un peu ballots, quoi, ils arrivent pas trop à, ils sont un peu maladroits, ils sont lents et ils sont super lourds quand même, 3 tonnes je rappelle. Et donc ils se sont bien embourbés en allant boire un petit coup. Alors ils s'enlisent et là ils arrivent plus avec leurs grosses pattes là à sortir de là. Donc ils crient pour chercher de l'aide. Ils crient. Et ouais, je fais super bien. Le problème, c'est que quand on crie, eh ben, on appelle de l'aide, mais on peut appeler aussi des méchants. Et là, c'est le drame, parce que qui c'est qui arrive ? C'est le gang de ceratosaures. Ah ! Non ! Alors là, les ceratosaures, on les appelle les aracornes, parce qu'ils ont une corne sur le nez. Ils sont vilains. Eux, comme je disais tout à l'heure, c'est des carnivores. Donc eux, ils ont été alertés par les cris, mais aussi par l'odeur du sang. Parce qu'ils sentent partout, hyper loin. Pour vous situer un peu comment ils sont, les cératosaures, pour que vous voyez un peu à quoi ils ressemblent, ils font 4 mètres de haut, ils pèsent 1,5 tonne. Donc ils sont hyper grands, mais ils sont pas très lourds, donc ils peuvent beaucoup plus courir, voire même beaucoup plus sauter. Alors ils ont des dents longues, tranchantes, et les dents sont tellement longues et tranchantes et recourbées que ça leur permet de déchirer la chair de leur proie. Alors oui, là on est carrément dans un film d'horreur parce que là les cératosaures ils arrivent et comme ils sont quand même petits, ils mordent, ils sautent et ils repartent. Donc ils déchirent la chair, ils repartent, ils déchirent la chair, ils repartent, c'est horrible. Alors vous imaginez là le stégosaure, il est bloqué, il voit son fils bloqué et là il y a plusieurs cératosaures qui arrivent parce que forcément ils sont en bande les gars et là ils te sautent dessus, ils t'arrachent un petit bout et puis après ils repartent et puis t'arrachent un petit bout et puis après ils repartent. L'horreur. Heureusement tout ça va s'arrêter parce que arrive une deuxième bande. Ce sont les allosaures. Ah, les allosaures, ça vous dit quelque chose, hein. Ce sont les ancêtres du T-Rex. Le T-Rex, il arrivera 10 millions d'années après. Donc, les allosaures, là, ils arrivent en gang numéro 2, qui sont les ennemis des cératosaures. Oh, pareil, c'est des carnivores, hein, on est d'accord, hein. Le truc, c'est que les allosaures, ils sont hyper plus intelligents que les cératosaures. Donc là, les cératosaures, ils ont un peu peur parce qu'ils voient leurs ennemis jurés arriver. Et puis en fait, là, les allosaures, eux, pour vous dire, ils sont pareils que les cératosaures, mais ils sont plus gros. Et en plus des mêmes dents, mais encore plus grandes que les cératosaures, ils ont des serres au bout des pattes de devant, comme des rapaces, comme des aigles. Du coup, ils peuvent vraiment s'accrocher à leurs victimes. Et leur odorat, c'est un peu comme un GPS. C'est-à-dire que là, leur nez, il fait pip, 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 tut. C'est par ici qu'il faut aller, il y a du sang. Et là, ils peuvent sentir le sang à des dizaines ou centaines de kilomètres, c'est dingue. Donc bref, les allosaures, ils arrivent, ils encerclent les cératosaures, qui encerclent eux-mêmes les stégosaures, c'est la cata. Il y a un combat général qui s'instaure, les allosaures contre les ératosaures contre les allosaures contre les stégosaures, tout le monde s'enchaîne, c'est n'importe quoi. Mais il y a des petites pauses qui se passent des fois, les allosaures, ils allaitent, ils font des petites pauses pour se refroidir un peu, avec la langue qui se pose un peu sur le côté de la bouche comme ça, comme un chien. C'est dingue, non? Alors, du coup, vous allez peut-être pas regarder votre chien de la même manière après, mais voilà, les dinosaures, pour se faire une pause pendant leur combat, ils allaitaient comme des chiens. Bon, c'est reparti. Et là, en fait, pour pouvoir combattre et manger, comment ils faisaient? Parce que s'ils allaient aussi dans la boue, ils allaient aussi s'embourber, les malins. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils montaient sur leurs victimes, sur leurs les carcasses de leurs proies. Et c'est pour ça que, à force de sauter, les carcasses des stégosaures et des ceratosaures, les allosaures, ils ont brisé les os. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a retrouvé des milliers d'os cassés en 1000 morceaux. Bon, ça pourrait être sympa que ça se termine comme ça, mais ça se termine pas comme ça. Après, il y a une famille de camarasaures qui arrivent, parce qu'eux aussi, ils ont soif. Les caramasaures, et pas les Karamazov, c'est un peu comme une famille de camarades, ils sont toujours ensemble, ils sont énormes. Eux, ils font 20 tonnes, ils sont hyper hauts, on les appelle des mastodontes. Ils sont tellement grands qu'on dirait un bâtiment. Ah oui, ils sont bien sûr herbivores, hein. C'est un peu comme les stégosaures, quoi. Donc ils vont être mal barrés. Ils ont soif, ils en peuvent plus, donc ils voient le combat, mais ils se disent c'est bon. Les ceratosaures et les allosaures, ils sont sur les stégosaures. Nous, on va pouvoir passer tranquille. Et puis, vu comment on est énorme, de toute façon, notre taille va dissuader les méchants. Et donc, ils vont nous laisser passer. Évidemment que non, parce que les camarasaures, ils s'enlisent aussi. Non mais sérieux quoi, ils sont vraiment pas très malins. N'empêche que, eh ben, en s'en lisant, et voilà que les allosaures arrivent, et que les ceratosaures aussi, bam bam bam, tout le monde se déchire, s'entretue, c'est la catastrophe. Un coup de queue par-ci, paf, il y a un allosaure qui meurt, un coup de queue par-là, il y a un ceratosaure qui meurt, un coup de croque par-là, il y a un carmazaure qui meurt, bon, bref. Au bilan, il y a deux stégosaures, trois ceratosaures, un allosaure et trois camarasaures qui sont déchiquetés, les os broyés, on n'en parle plus. On pourrait quand même continuer en parlant de tous les autres combats qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas que dans le désert, il n'y en a pas que, que sur Terre, il y en a aussi dans la mer. Parce que dans la mer du Miocène, il y avait des combats entre les requins préhistoriques, qu'on appelait les mégalodons, et les cachalots préhistoriques, qu'on appelait les brigmophysettes, qui, eux, avaient, pour info, les mêmes dents que les T-Rex, hein, dans la mer, les cachalots. Ou alors même les baleines tueuses, à l'époque, il y en avait. Mais sinon, on pourrait aussi parler de la jungle. Parce que en Colombie, à cette époque-là, il y avait le titanoboa, qui est un serpent incroyablement énorme. Et lui, qui aimait bien, enfin, en tout cas, non, il aimait pas, mais qui, des fois, eh ben, il faisait des combats avec la tortue carbonée Miss. Eh oui! Bref, j'arrête là parce que ça pourrait durer des heures vu que c'est hyper passionnant. Mais sachez pour info que vous pouvez retrouver les combats des dinosaures dans une série documentaire vidéo incroyablement stupéfiante, merveilleuse, que j'adore, qui s'appelle Jurassic Fight Club. Et Jurassic Fight Club, c'est 12 épisodes de 45 minutes diffusés sur Arte TV en 2008, et maintenant vous pouvez retrouver sur le net sur Dailymotion. Bon, et ben j'espère que vous allez quand même faire des beaux rêves et que vous allez toujours rechercher les nouveautés des dinos. A plus!
One. J'aime écouter la radio mercredi!
Two.
Alors moi, dans cette émission spéciale dinosaures, j'avais envie de te présenter certains dinosaures, parce que bon, il en existait quand même des centaines. Moi, quand j'étais petite, il faut vraiment imaginer que les dinosaures, ils étaient tous représentés marron, gris, en tout cas couleur foncée, un peu comme des vieux reptiles qui seraient restés trop longtemps près de la Terre. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les dinosaures étaient sûrement colorés, un peu comme les oiseaux. Et que, en plus, pour certains dinosaures, ces couleurs-là devaient avoir la même fonction que pour certains autres animaux d'aujourd'hui, à savoir être le plus beau pour séduire le mâle ou la femelle, faire des exercices de parade. Et alors ça, moi, ça m'a complètement changé ma vision des dinosaures, d'imaginer un paysage rempli d'arbres avec des énormes bêtes complètement colorées. J'ai trouvé ça super disco. Alors comme tu le sais, il existe beaucoup de dinosaures différents, avec des physiques et des manières de vivre bien différentes. Faut imaginer que certains étaient carnivores, d'autres végétariens, certains volaient, d'autres nageaient, d'autres couraient très très vite. Alors moi, ce que j'ai envie de faire dans cette émission, c'est de te donner une idée de ces fantastiques reptiles disparus. Je vais t'en présenter quelques-uns. Et évidemment, c'est très dur de choisir entre tous ces dinos, parce qu'en fait, on les connaît tous pas du tout. Alors du coup, on a envie de tous les présenter dans l'émission. Mais bon, bah, ça serait complètement ennuyant hein, de faire ça. Donc, je vais en choisir quelques-uns. Et les choix sont complètement subjectifs. C'est-à-dire que c'est pas du tout par continent, c'est pas par type de dinosaures, c'est pas par époque, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs époques hein, chez les dinosaures, il y a l'époque du Trias, l'époque du Crétacé, tout ça. C'est pas par nom rigolo aussi, parce que c'est vrai que quand même les humains, des fois, ils se sont bien amusés à donner des noms à des dinosaures. Moi, j'ai bien aimé l'Irritator, par exemple. On dirait un peu que c'est des Pokémon, des fois. Non, j'ai pas voulu faire une sélection par espèce, par caractéristique ou quoi. Je les ai toujours plutôt pris vraiment par choix personnel, soit parce que je les trouvais beaux, tout simplement, soit parce qu'ils avaient quelque chose que je trouvais plutôt incroyable par rapport aux autres. Alors pour la sélection de ces dinosaures, je me suis inspirée de deux livres géniaux, mais vraiment géniaux. Si tu veux avoir des très très belles illustrations de dinosaures, si tu veux avoir une idée un peu des couleurs, du volume, voilà, c'est vraiment un super livre. Alors il y en a un, donc ça s'appelle Le secret des dinosaures, avec des illustrations de Zhao Chuang et les textes de Yang Yang. Et l'autre livre, c'est Nous dinosaures, avec les mêmes personnes à l'écriture et au dessin. Alors c'est vraiment un travail remarquable, les détails sont hyper précis, enfin vraiment on a l'impression que le dinosaure il pourrait être devant nous et ça donne hyper envie souvent de les connaître. Et c'est édité chez PNSO, Nuit Nuit Jeunesse. Voilà, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait comme travail et c'est très adapté, moi je trouve, à partir de 4 ans. L'Erérazor mesure de 3 à 6 mètres environ, 1 mètre de haut, et il fait entre 2 et 300 kilos. Il vit en Amérique latine, à l'époque du Trias. Ce dinosaure-là est incroyablement beau. Dans le livre que je tiens dans mes mains, celui dont je vous ai parlé juste avant, Les secrets des dinosaures, il est jaune et bleu, rayé de tout son long, bipède ou quadrupède. Il a une mâchoire qui comporte beaucoup, beaucoup de dents. Et surtout chez lui, ce qui est important, c'est son ouïe. Il a cette capacité à entendre les tout petits bruits de sa proie. Et avec sa rapidité, il lance son attaque et en quelques secondes, il la mange. Il est carnivore. Le Guanlong. Il mesure 3 mètres de long, 1,20 m de haut. Il vit en Chine à l'époque du Jurassique. Pour les fans d'Harry Potter, dont je fais partie, je trouve que celui-ci a l'allure d'un hippogriffe. Il tient sur ses deux pattes, avec un corps en avant qui tient en équilibre grâce à sa longue queue. Il me fait penser à une autruche avec ses pattes, et sur la tête, il a une crête, comme le monolophosaure. Et surtout, ce que je trouve hyper contrasté avec son apparence, c'est qu'il a plein de fourrures sur son corps et sur ses pattes, des plumes. Son nom signifie « dragon à couronne » en chinois. Il est l'un des ancêtres du Tyrannosaure Rex, car ce qu'il partage avec ce fameux dinosaure, c'est ses pattes postérieures puissantes, ses dents acérées et sa vue perçante. Le Mononychus, 1 mètre de long, omnivore. Il vit à l'époque du Crétacé en Asie. Celui-ci est un peu plus petit que vous, donc moins d'un mètre. Et il a des grands yeux et un cou souple. Il est plumé au niveau de la queue et du corps, sauf des pattes. Et ce qui est atypique chez ce dinosaure-là, ce sont ses deux griffes, qu'il faut imaginer un peu comme les cornes de rhinocéros à la place des pattes de devant. Alors les scientifiques se posent la question de ces griffes. À quoi servaient-elles? Eh bien, sûrement à creuser des termitières. Et donc, d'en conclure, que les termites étaient son plat préféré. Et moi, j'en conclus que les termites existaient déjà à l'époque. Donc ce sont des animaux très 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 vieux. Le chunosaure, herbivore. Il vit à l'époque du Jurassique, en Asie. Être herbivore et dinosaure n'est pas chose facile. Souvent de grande taille, avec des coups bien longs pour attraper toutes sortes de feuillages, ils sont la proie facile de nombreux prédateurs. Alors certains développent des caractéristiques physiques qui leur permettent de mieux se défendre. Celui-ci, par exemple, est un grand sauropode. Donc le sauropode, c'est un genre de dinosaure qui ont à peu près tous la même caractéristique, à savoir être herbivore et quadrupède. Donc peut-être vous connaissez le Diplodocus. Il me semble pour moi que c'est un des plus connus du genre. Eh bien, le Diplodocus est un sauropode. Et donc celui-ci, le chunosaure, y ressemble et à l'extrémité de sa queue se situe une espèce de massue qui lui permet d'attaquer ses ennemis. Sinon, il faut l'imaginer aussi gros qu'un quart, avec un long cou et une longue queue lui permettant l'équilibre et il se déplace sur ses quatre pattes.
La question, c'est pas d'y croire ou non, c'est d'essayer de comprendre. C'est que personne n'est allé mettre les fossiles sous terre, mais c'est sûr, des millions d'années à se représenter dans la tête, c'est très compliqué. 150 millions d'années, c'est énorme. Mais l'objectif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve ces fossiles et d'en savoir plus sur le passé.
Et quand tu étais enfant, tu aimais bien ça, les dinosaures et les découvertes ?
Pas forcément. Ça qui est marrant, c'est que non, je m'intéressais plutôt à ce que je voyais, aux oiseaux, etc. J'ai toujours été un peu curieux, donc c'est très facile pour moi d'aimer quelque chose.
Est-ce que tu peux rapidement nous présenter le matériel pour faire des fouilles ?
Pour creuser dans les graves, ils utilisaient des tracteurs, des pelles mécaniques. Mais une fois qu'on arrive dans les couches fossilifères, là on va retrouver les fossiles, on va utiliser des outils selon le sol sur lequel on se trouve. Si on se trouve sur du grès, de la roche assez dure, là peut-être utiliser un marteau et un burin pour casser la roche, une pioche. Et si on se trouve dans un sol argileux, un sol assez mou, si vous avez fait déjà de la poterie, c'est cette terre qu'on utilise pour faire de la poterie, la terre orange. Et donc là, on peut utiliser des plus petits outils comme la truelle. On peut passer beaucoup de temps à creuser, par exemple sur un mètre de profondeur. Ça prend beaucoup de temps. Il faut une grande équipe pour pouvoir creuser. Et une fois qu'on trouve un fossile, il faut enlever la terre tout autour. Et là, il y a un autre outil qui est utilisé, c'est une curette. Alors, c'est l'outil qu'utilise le dentiste pour nettoyer un peu les dents. Donc, on voit, c'est un outil très fin, pour faire un travail très minutieux, pour petit à petit enlever la terre autour. Si on trouve un fossile en plusieurs morceaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tous les morceaux dans du papier aluminium. Ça permet de savoir que tous les morceaux ont été retrouvés au même endroit, qu'ils appartiennent certainement au même fossile. Après, il y a toute une partie tamisage où on va trier les fossiles. Donc il y a plusieurs pôles dans un chantier de fouilles. Plusieurs personnes qui s'occupent de différentes tâches. Les fouilleurs, le préparateur, les personnes qui lavent les fossiles, les personnes qui quadrillent aussi la zone pour faire les mesures, etc.
Merci Guillaume, Salima et Jodène pour toutes vos explications aujourd'hui sur l'émission spéciale Dinosaures. D'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, si vous avez envie de nous faire partager votre passion pour les dinosaures, un dessin, un spécimen dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer par mail à l'adresse mercredi@armada-production.com. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine dans Mercredi.
Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi.